Samedi 20 février, la librairie jeunesse arajoise au pied de la lettre a organisé une lecture de contes africains pour tout public. C'est le Guinéen Eladj qui a eu l'honneur de raconter une histoire qui parle de sagesse devant un jeune public venu avec leurs parents. On se plonge dans l'ambiance avant de retrouver Eladj avec qui on évoquera ce fameux conte.
Les enfants, comment toi tu t'appelles?
Lawen.
Hein?
Youn.
Et toi? Toi, monsieur?
Youn.
Et vous, mademoiselle? Eva. Et vous? Hein? Et Louise. Et vous, monsieur?
Adrien.
Louise. D'accord. On vous fait des comptes à l'école? Non. Alors, moi, ce que je vais vous raconter à vous, à vos parents et à vos grands-parents aussi, c'est pas l'histoire de Clochette, peut-être que vous avez entendu parler, ni l'histoire de Blanche-Neige. Ce que je vais vous raconter, ça se passe où?
En Afrique.
En Afrique, très bien. Et l'Afrique, c'est où? Vous connaissez? C'est sur un continent. Si vous ne comprenez pas, vous demandez. Et si vous avez des questions aussi, posez vos questions, d'accord? Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Smyniamba.
Alors Eladj, qu'est-ce que tu as pensé des réactions du public?
C'était déjà une découverte pour eux, donc moi je crois bien que c'était une réaction positive.
Tu viens de Guinée, hein? C'est une tradition le conte, comment ça se passe là-bas et à quel âge ça commence?
Le conte, c'est pour tous les âges, mais surtout pour les enfants. Le conte, c'est une récompense pour les enfants qui ont accepté de faire, de remplir les tâches, les commissions de la journée. Donc pour les récompenser, on les réunit autour du feu, au clair de la lune, pour leur raconter maintenant des histoires, oui.
Et est-ce que ces contes viennent souvent d'histoires vraies ou il y a beaucoup de parts de fiction?
En fait, c'est des trucs de fiction. De fiction, ouais, c'est imaginaire. Ouais. On donne toujours de la morale positive. Hein, parce que si on fait des contes avec des leçons de morale négatives, moi je crois bien que ça va influencer sur nous les enfants que nous étions. Donc on nous donne toujours de la morale positive. Ouais.
Le conte que tu viens de raconter aux enfants, comment il s'appelle et qu'est-ce que ça raconte comme histoire?
Le conte, en fait je l'ai adapté. Sinon, l'original s'appelle Les Catouves de Côte-Barna. Donc, et moi, pour le faire accompagner par la chanson, donc je l'ai dit Minyamba. Donc, ce qui fait que l'acteur principal du conte s'appelle Minyamba dans mon conte à moi. Ça raconte en fait la sagesse africaine qui n'est pas du tout identique à celle de l'Occident. Donc les quatre touffes de cheveux de l'ami du roi a une signification. Donc il fallait déchiffrer la signification de chaque touffe de cheveux.
Alors il y avait les parents, il y avait aussi les enfants qui étaient assez jeunes. Est-ce que c'est pas un peu difficile pour eux ce genre de conte pour la compréhension?
En fait, dès le début, on a lancé l'annonce comme quoi il y a un atelier de conte au niveau de la librairie au pied de la lettre. Pour faire connaître déjà l'activité, il fallait inviter tout le monde, ce qui fait que c'était ouvert à tout le monde, donc les enfants, les adultes, tout le monde. Quoi. Donc si les enfants se sont retrouvés, c'est bien aussi, parce que ça ne sera pas la première. La prochaine fois, ça sera avec les tout-petits, ouais.
Sur les animaux?
Oui, sur les animaux. Et surtout sur le lièvre qui est très influent dans les contes africains.
Est-ce que tu as eu aussi l'occasion de découvrir des contes européens justement? Et qu'est-ce que tu en penses peut-être si tu en as lu?
En fait, pour ce qui est du conte européen à l'enfance, non. Non, pas du tout. On ne fait pas de conte européen à l'enfance, mais au collège et au lycée, j'ai eu quand même à lire certains contes européens et français surtout. Oui.
Alors, comment tu les trouves?
Ouais, sympa. J'ai adoré l'histoire de Cendrillon. Il y a même maintenant tellement que c'est une histoire qui a fasciné le monde, qui a fasciné les Africains. Cendrillon est interprété même dans les films africains, surtout nigérians. Donc, même... Je je crois en Guinée aussi, il y a un film qui traite de ça, bon, je ne sais pas, mais je pense bien, ouais.
Donc on est ici au pied de la lettre, hein, qui ont accepté gentiment de te recevoir pour lire ton histoire. Comment ça s'est passé cette rencontre et est-ce que tu vas continuer ?
Je pense pouvoir continuer, je vais discuter avec la direction de la librairie, les manières dont je suis disponible à le faire, parce que non seulement c'est un échange de culture pour amener les Arajois à découvrir les valeurs africaines, donc c'est ça, je suis disposé à le faire, et pourquoi pas même à l'université.
Il dit, Sa Majesté, je suis là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je voudrais le savoir, Sa Majesté. Quel est le tort que cet homme couché là qui attend sa mort imminente? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce monsieur, tellement qu'il est sûr de lui, il a juré que celui qui parviendra à déchiffrer ses touffes de cheveux, de lui couper la tête. Donc moi, je suis parvenu à déchiffrer, raison pour laquelle je dois couper sa tête. Le vieux dit, la vieille personne dit, « Ok, Sa Majesté, dites-moi alors la signification de ces touffes de cheveux. » Sa Majesté dit, « La première, c'est ça. Il ne faut jamais avoir confiance à la femme. Il faut l'aimer, mais il ne faut jamais avoir confiance. » Le vieux dit, « Majesté, ça c'est vrai ou faux ?» Le roi n'avait rien à dire. Le vieux lui demanda encore, « Qui vous a donné la signification de ces touffes de cheveux ?» Le roi répondit que c'est sa femme, c'est la femme à Minyamba. Minyamba regarda sa femme et le vieux dit, premier enseignement, il faut aimer la femme, mais ne jamais avoir confiance. Dit, deuxième enseignement, lorsqu'on a voulu couper la tête de Minyamba, il y a le fils adoptif qui est venu. Au lieu de plaider pour qu'on ne tue pas son père adoptif, lui, il demande plutôt l'habit de son père à lui. Il dit, vrai ou faux, Majesté? Le roi dit, oui, c'est vrai. Il dit, troisième enseignement. Le roi et Minyamba sont nés au même moment, à la même période, dans le même village. Ils ont joué ensemble à l'enfance, à l'adolescence, tout et tout et tout. Ils ont grandi ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce chef qui veut tuer son propre ami. Là aussi, vrai ou faux? Le roi dit, oui, c'est vrai. Et c'est ainsi que Minyamba fut sauvé. Et le quatrième enseignement de ce conte, c'est quoi? C'est la vieille personne
doit rester dans le village.
Dans le village, c'est la vieille personne qui a sauvé Minyamba. Vrai ou faux? Chaque touffe de cheveux a eu sa part de vérité sur Minyamba. Donc c'est ce qui veut dire que, un, il ne faut pas jurer sur quelque chose. Même si tu es en mesure de le faire, il ne faut jamais jurer sur ta vie. C'est l'enseignement.
Faut jamais jurer sur ta vie, sinon tu vas avoir des surprises.
Des surprises.
Tu peux jurer, je sais pas, sur un chewing-gum, mais pas sur ta vie.
Un chewing-gum, mais pas sur ta vie. Donc, mesdames et messieurs, c'était l'histoire de Minyamba avec ses quatre touffes de cheveux. Et dans ma langue, on dit que tout ce qui est bon, après avoir fini de faire un conte, tout ce qui est meilleur vient nous envelopper, pour qu'on puisse dormir tranquillement la nuit. Et tout ce qui est mauvais sort par les fenêtres pour partir loin et nous laisser tranquilles. Je vous remercie.
Merci.
Bravo, merci. Bravo.
Avant la suite de cette interview avec Eladj pour évoquer cette fois-ci son parcours de Guinée-Conakry jusqu'à Arras, on écoute les réactions d'Eva et Adrien ainsi que celles de quelques parents, mais aussi une version édulcorée des trois petits cochons décrite par un dernier petit bonhomme.
Elle était assez bien. Ça nous apprend vraiment à pas faire des trucs quand on sera grand. Par exemple, l'histoire, elle nous a dit qu'il faut pas parier ta vie.
Qu'il faut aimer sa femme, mais ne jamais avoir confiance.
Et sinon, quel genre de conte, toi, tu aimes? Quelle histoire tu aimes bien? Le dernier livre que tu as lu, par exemple, c'était quoi?
Max et Lily. Lily se fait piéger sur Internet et... en fait, il y avait quelqu'un qui avait photographié quelque chose qu'il avait enregistré sur Internet et qu'elle s'était fait piéger et qu'elle avait envoyé à tout le monde.
Madame, peut-être sur ce que vous avez pensé du conte.
Ben en fait, c'est différent des contes dont on a l'habitude, en fait. C'était plus une leçon de morale. Et j'ai trouvé que c'était un peu abrupt, surtout la deuxième signification du conte, qu'un enfant adoptif, en fait, n'est jamais vraiment le fils de son père adoptif, notamment parce que mon fils est un enfant adopté, donc j'ai eu peur que ça le, ça le stresse un peu. Mais bon, je crois qu'il a pas tout, il a peut-être pas vraiment bien fait attention, mais c'est vrai que c'est assez abrupt, en fait, et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence de culture, effectivement, entre les Africains et les Européens, et qu'il peut y avoir différentes façons d'envisager les choses, voilà. Mais qu'effectivement, comme a dit monsieur, il ne faut pas s'attacher vraiment, enfin, au pied de la lettre, de la librairie d'ailleurs, mais à la signification, mais plutôt retenir la signification globale du conte, en fait, et la morale globale qui est effectivement qu'il ne faut pas jurer sur sa vie. Voilà.
Très surprenant, comme le disait madame, par rapport aux différences de culture. Effectivement, les quatre significations, surtout les deux premières, étaient assez choquantes au début. Je me demandais vraiment où on voulait en venir. Et donc, retenir que la morale, bien évidemment, et pas la signification brute des quatre touffes de cheveux.
Vous lisez quoi d'habitude, vous ? Qu'est-ce que c'est vos livres préférés ? Les trois petits cochons, par exemple, c'est quoi l'histoire ?
On en a un qui construit sa maison en paille, on en a un qui construit sa maison en bois, on en a un qui construit sa maison en briques.
Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a le loup, il souffle la maison de paille, le cochon il s'est sauvé dans la maison de bois, après le loup a soufflé, ils sont sauvés sur la maison de briques.
Est-ce que le loup, il a réussi à souffler sur la maison de briques ?
Non, qu'il a monté sur la maison, il était sur le toit et il a descendu la cheminée et il avait du feu et il s'est brûlé.
L'histoire d'Eladj est comme beaucoup de réfugiés politiques directement liée à une certaine forme de dictature. Il a quitté son pays, la Guinée-Conakry, pour trouver l'asile en France, en laissant famille, femmes et enfants. En 2014, il est passé par le CADA d'Arras, le centre d'aide aux demandeurs d'asile. Il est actuellement aujourd'hui en train de constituer son dossier de régularisation à la préfecture d'Arras. Tu es demandeur d'asile en France, tu es parti de ton pays. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi tu es parti et depuis combien de temps tu es arrivé ?
En fait, je suis arrivé en 2013 en France et j'ai fui parce que mes prises de position dérangeaient trop le gouvernement, dérangeaient trop les autorités. Donc j'ai fui, j'ai été à deux reprises emprisonné. J'ai été mis en garde à vue et du coup, je suis militant farouche contre les abus du pouvoir. Donc, m'a fallu être en exil en France, mais malheureusement, ma situation n'a pas été régularisée. Donc, vraiment, je trouve ça quand même un peu.
Et quel métier tu faisais là-bas, en Guinée ?
Je suis bibliothécaire de formation. J'ai géré une médiathèque pendant 10 ans, de 2003 à 2013, date de ma venue en France. J'ai créé une association aussi très reconnue dans la région, Club littéraire Tierno Monenembo, le nom d'un écrivain qui a eu le prix Renaudot en 2008. J'ai créé aussi une petite revue associative avec mon association et c'est cette revue qui dérangeait parce qu'on traitait le gouvernement vraiment de tout, quoi, parce qu'ils ne remplissaient pas leurs promesses envers la population. Donc vraiment, et moi ça me révoltait, j'ai toujours à l'avant-garde de ces revendications, donc ce qui fait que je suis là.
Tu viens de me raconter ton histoire, comme quoi tu avais quitté ton pays et que tu étais arrivé en France pour fuir le régime. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement ce qui s'est passé avec le gouvernement ? Je crois qu'il y a eu un putsch en 2009.
L'histoire de la Guinée-Conakry, c'est une succession d'événements douloureux depuis la période de l'indépendance, à commencer par Sékou Touré qui a fait assassiner tous les intellectuels guinéens, à commencer par le premier secrétaire général de l'Union africaine, mais appelé à l'époque organisation de l'unité africaine, Diallo Télé, durant 26 ans, je pense, Sékou Touré a régné avec tyrannie. Et après sa mort, il y a un militaire, Lansana Conté, qui a pris le pouvoir. Lui aussi, il a fait régner la dictature, la terreur. Donc, à sa mort, en 2008, il y a eu des militaires aussi qui ont pris le pouvoir. Au début, ils ont promis qu'il allait céder le pouvoir juste à l'espace d'une année. Mais au fil du temps, ils ont goûté aux délices du pouvoir. Et ils ont commencé à tourner leur veste en disant qu'ils vont se présenter. Ce n'est pas exclu qu'ils se présentent eux-mêmes pendant les élections. Donc le peuple s'est révolté. Il y a eu des massacres où 157 personnes ont été massacrées par l'armée. Des femmes violées en pleine journée au plus grand stade du pays, le stade du 28 septembre. Donc, et moi, là où j'étais, j'ai dénoncé ça. À chaque fois que je dénonce, j'ai toujours été mis en garde à vue par la gendarmerie, par la police. J'ai été toujours interpellé. Il y a des gens qui m'ont suggéré de fuir. J'ai dit non, moi je ne vais pas fuir parce que c'est mon pays. Je préfère mourir dans mon pays. Et finalement, la dernière fois que j'ai tenu une conférence, c'était une activité culturelle organisée par une association de jeunes, la JVC. Et du coup, on m'a invité comme conférencier sur la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation sans parler des faits qui se sont déroulés. Donc, j'ai souligné la bavure que l'armée fait chaque fois sur la population. Et du coup, ça n'a pas plu aussi à la gendarmerie. Le soir même, après les activités, le soir même, lorsque je suis rentré à la maison, il y a des gendarmes qui ont pointé chez moi. Ils ont commencé à me tabasser devant ma femme, mes enfants. Ils ont saccagé la maison, ils ont renversé tout et tout. Ouais, ils ont même voulu violer ma femme. Mais c'est à partir de là que les gens ont commencé vraiment à me dire « il faut fuir ». J'ai dit non, mais finalement j'ai accepté de fuir.
On est en 2016 aujourd'hui. Tu suis évidemment l'évolution de ce qui se passe là-bas. Comment ça évolue ?
Ça n'évolue pas parce que ne serait-ce que la semaine passée, il y a eu le mouvement syndical qui a déclenché une grève générale dans tout le pays. Donc c'est ce qui fait que ça ne va pas du tout. Il y a des assassinats, il y a des disparitions de journalistes, il y a des disparitions d'opposants. Il y a un journaliste qui a été tué, Mohamed Diallo, qui a été tué au début de ce mois de février. Il y a eu des journalistes qui ont disparu, il y a eu des opposants qui ont disparu. Donc vraiment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. C'est un régime de dictateur.
Et est-ce qu'il y a quand même des interventions extérieures de pays qui essayent de voir pour arranger les choses, ou tout au moins d'essayer de stopper cette vague de violence ?
En fait, pour le moment, on n'est pas arrivé à ce stade comme le Mali ou la RDC. On n'est pas arrivé. Bon, pour le moment, c'est un problème guinéo-guinéen. Donc, le pouvoir essaye de décapiter tous les encombrants que nous sommes. Donc, ceux qui ont la chance, on fuit. Ceux qui n'ont pas eu la chance, soit ils sont en prison, soit en tout cas, ils sont guettés à la loupe par les autorités.
Ton dossier pour avoir une régularité en France est en cours. Est-ce que c'est compliqué de monter ce genre de dossier ?
Je suis en France et je suis surtout à Arras où je m'implique dans les associations avec Colère du Présent. Je participe au Salon du Livre. Ça fait 2 ans que je participe avec le Centre Social Arras Ouest où je suis membre du conseil de proximité avec bien sûr la librairie au pied de la lettre et surtout aussi avec PFM où j'ai participé à des ateliers comme le Ch'ti Bouiboui, ça c'est une émission. Et je participe aussi à l'atelier avec des jeunes. L'émission s'appelle L'Arbre à Palabre. Et il y a une autre émission aussi africaine qu'on appelle Arc-en-Ciel avec Mamadou Koulibaly et Hervé du Togo. Donc on est là vraiment. En fait, moi, mon histoire, vraiment, je n'ai pas quitté la Guinée parce que j'ai voulu quitter. Je suis là parce que j'ai été obligé de rester en France. Sinon, j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants à Banjaz. Le premier aura 8 ans au mois de juin prochain. La deuxième aura 4 ans demain. Heureusement que la population arajoise, c'est une population sympathique, vraiment merveilleuse. Depuis que je suis là, vraiment, je n'ai pas senti d'être abandonné, bien que ma situation n'est pas ça. Mais vraiment, je remercie fort la population d'Arras.
Et du coup, ben, ça fait quand même 3 ans que tu n'as pas vu ta famille. J'imagine que tu as des nouvelles régulièrement. Comment ça se passe pour eux ?
Pour eux, moi je dirais déjà, lors des élections passées, avec ma prise de position, déjà j'avais ma famille qui est ciblée. On a notre maison familiale qui a été démolie par les partisans du pouvoir. Donc la maison familiale a été détruite. Et du coup, mon père étant même un ancien exilé au temps de Sékou Touré, il a passé toute sa vie au Sénégal, il est revenu... Il a eu un AVC en 2008, de 2008, il vient de décéder le 26 octobre passé. Donc vraiment, et dès qu'il a appris que moi aussi j'étais en exil, et ça a fait empirer sa maladie. Donc du coup, il est décédé vraiment. Le fait de ne pas pouvoir assister à ses funérailles, de ne pas le voir mourir, j'ai pas eu le temps de participer à ses funérailles. J'ai mes enfants. Donc vraiment, ça me fait de la peine. Ouais. Je demande à tous ceux qui m'écoutent vraiment de participer, d'accepter, de me soutenir. Je vous dis, je ne suis pas un migrant économique. J'avais ma vie pleine en Guinée. J'avais mon boulot, ma famille, ma maison. Donc, je ne suis pas un migrant économique. Je suis juste un exilé politique. Donc, je suis là. Donc, je demande à tous ceux qui m'écoutent vraiment de me soutenir dans mon combat pour vraiment que triomphe la victoire en Afrique.
C'était un entretien avec Eladj, conteur invité par la librairie jeunesse d'Arras au pied de la lettre, pour raconter l'histoire de Minyamba.